Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin, invité politique, est Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Stéphane Hamon.
Alors, ça ne vous étonnera pas si je vous pose la question qu'on entend d'ailleurs dans tous les médias, hein, c'est pas spécifique à Bretagne 5. Comment vous le trouvez, notre nouveau Premier ministre ?
Minoritaire. C'est le premier objectif, parce qu'il faut dire quand même la manière dont il a été désigné. C'est le président de la République qui a pris une décision seule, celle de dissoudre l'Assemblée nationale au soir des élections européennes en juin dernier, alors que rien ne l'y obligeait. Et seul Jordan Bardella lui avait demandé. Dans ces élections législatives, il y a eu deux faits majeurs. D'abord, l'Union de la gauche qui est arrivée en tête. En tête au premier tour en nombre de voix et en tête au second tour en nombre de députés. Et il y a eu un deuxième fait majeur, c'est au deuxième tour le Front républicain, qui a lié la gauche, le camp de droite libérale d'Emmanuel Macron, et même une partie dans certaines circonscriptions du camp de la droite conservatrice des Républicains, du parti Les Républicains. C'est grâce à ça que nous avons évité la majorité absolue du Rassemblement national, partant du principe que ces familles politiques que je viens de citer avaient d'abord en commun l'attachement à la République, au fonctionnement démocratique, aux libertés, et à une certaine idée de la France qui n'est pas celle de l'extrême droite. Et malgré cela, qu'est-ce que fait le président de la République depuis cet été ? D'abord, il refuse de nommer, comme c'est la coutume dans tous les régimes parlementaires, une ou un Premier ministre issu de la coalition arrivée en tête, donc le nouveau Front populaire et l'Union de la gauche. Et ensuite, on voit ces derniers jours qu'il cherche finalement un Premier ministre de droite avec comme critère principal, un, de ne pas remettre en cause son propre bilan, alors que les Français ont demandé une remise en cause de sa politique quand on fait une, quand on connaît, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, une défaite aux élections européennes et successivement une défaite aux élections législatives, c'est que les Françaises et les Français vous demandent un changement de cap politique. Mais lui, ce qui l'a préoccupé, c'est qu'il n'y ait pas de changement de cap, qu'il puisse continuer à décider jusqu'à la fin de son mandat. Et deuxièmement, on voit qu'il a cherché l'aval, le soutien implicite du Rassemblement national. C'est maintenant unanimement reconnu. Il a appelé Marine Le Pen hier après qu'un député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, ait insulté sur un plateau de radio ou de télévision, je ne sais plus, Michel Barnier. Il l'a appelé pour lui demander si c'était la position officielle ou si le RN était bien OK pour laisser Michel Barnier en place. Donc on a un président de la République qui est dans le déni des résultats, dans le déni de la démocratie et qui nomme un Premier ministre de droite très conservateur qui dialogue avec l'extrême droite hein, sur les sujets migratoires, qui aussi a eu plusieurs votes homophobes, qui a porté une proposition de loi dans les années 2000 contre, pour le déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse quand même. Hein. Donc on est sur une position très minoritaire, un groupe qui a 47 députés à l'Assemblée nationale et qui va malgré tout avoir le Premier ministre. Donc c'est la raison pour laquelle le Parti Socialiste censurera, les députés socialistes censureront son gouvernement.
Est-ce que finalement personne ne souhaitait succéder à Gabriel Attal ? Est-ce que le poste était, permettez-moi le terme, il est un peu fort mais casse-gueule ?
La gauche souhaitait succéder à Gabriel Attal, le nouveau Front populaire a remporté ses élections, lucide, certes avec une majorité relative, mais je rappelle que c'était déjà le cas des gouvernements d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal, des majorités relatives. Et nous n'avions jamais remis en question le fait qu'il leur appartenait malgré tout de composer un gouvernement, puisqu'ils étaient la première force, même s'ils n'étaient pas en majorité absolue. Et c'est la raison pour laquelle, en 2022, je rappelle que la gauche avait refusé de voter la motion de censure, enfin du moins le Parti Socialiste, la motion de censure du Rassemblement National, considérant qu'on ne pouvait pas s'allier avec l'extrême droite pour faire tomber un gouvernement de droite. Cette fois-ci, ça n'a visiblement pas été le cas dans le camp des macronistes, qui, eux, n'ont pas hésité à dire qu'ils voteraient une motion de censure avec l'extrême droite, pour faire barrage au groupe politique arrivé en tête, à savoir le nouveau Front populaire. Donc nous, nous étions prêts à assumer les responsabilités. Nous l'avons dit depuis deux mois, sur la base de notre programme. Évidemment, avec des compromis, c'est de l'arithmétique simple, nous n'avons pas de majorité absolue, nous aurions eu des compromis. Ceux qui disent que nous n'avons pas cherché à en faire sont trop mal informés. Lucie Castet, les Olivier Faure ont passé l'été à discuter avec des députés du Modem, des groupes macronistes, du groupe, fameux groupe Pliot, vous savez, celui de M. de Courson. Pour avancer sur des compromis et un programme de gouvernement, certains étaient prêts à nous suivre. Mais la consigne du président de la République, de Gabriel Attal, puisqu'il avait la double casquette de Premier ministre et de président du groupe Ensemble, donc macroniste à l'Assemblée nationale, avait annoncé leur volonté de faire une censure automatique. dans un premier temps, uniquement s'il y avait des ministres de la France Insoumise, je le rappelle. Et Jean-Luc Mélenchon avait annoncé qu'il était prêt à ce qu'il n'y ait pas de ministre de la France Insoumise. Et malgré tout, on s'est rendu compte qu'en fait, la censure n'était pas contre les ministres, mais contre le programme. Donc on a un président de la République qui, seul, malgré deux défaites électorales, décide de censurer le programme politique arrivé en tête. Donc,
il l'a précisé, hein, une des lignes rouges à ne pas dépasser, en tout cas pour le nouveau Premier ministre, c'est la réforme des retraites, par exemple. Voilà, pas de changement sur la réforme des retraites.
Pas de changement dans le sens que nous souhaitons, peut-être que ça ira encore plus loin, puisque Michel Barnier était, comme Édouard Philippe, nouveau candidat à l'élection présidentielle, favorable à la retraite à 67 ans, lui. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'attendent les Français. En tout cas, je sais ce qu'ils attendent, eux. Ils étaient 90% à s'opposer à la réforme des retraites. Donc nous l'avions dit, effectivement, c'était des lignes rouges du programme du Nouveau Front Populaire. En vérité, nous en avions principalement trois. Un, revenir sur cette réforme des retraites. Deux, construire une réforme fiscale parce qu'il faut de la justice fiscale dans ce pays pour financer les services publics, l'hôpital et l'école. C'est la rentrée scolaire, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a, et puis les difficultés sur l'hôpital sont anciennes ici. Et trois, revaloriser le SMIC et les plus bas salaires. C'était nos trois lignes rouges, puisque c'était le cœur de notre programme. Et je le répète, ce programme est arrivé en tête en nombre de voix et en nombre de députés. Donc il y a un détournement du résultat de l'élection présidentielle par le président de la République, qui sombre petit à petit, hein. Il y a quand même beaucoup de digues qui sautent, dans une forme de démocratie libérale extrêmement inquiétante.
On entend la rue qui commence à s'exprimer, on entend aussi les syndicats, on entend évidemment les partis de gauche qui demandent aux Français de se réunir contre ce programme qui est estimé libéral. Est-ce que la rue pourrait faire la différence cette fois-ci ?
Je ne le crois pas, en tout cas en ce qui concerne les manifestations qu'elles certains appellent à participer demain, le 7 septembre. Nous, le Parti Socialiste, nous n'appelons pas à manifester le 7 septembre. D'une part parce que ce n'est pas forcément la manière dont on doit agir, c'est aussi aux parlementaires là, de se mettre en ordre de marche et de censurer ce gouvernement de Michel Barnier. Mais d'autre part parce qu'au Parti Socialiste, nous sommes attachés, et c'était déjà le cas au moment des manifestations sur la réforme des retraites ou autre, à un principe simple, c'est que la manifestation est le mode opératoire, le mode d'expression des syndicats de travailleurs. Donc nous irons à la rentrée syndicale qui devra avoir lieu début octobre, si j'ai bien compris pour l'instant. Nous aurons des pressions sur la date bientôt, lorsque les syndicats organiseront une manifestation pour une rentrée sociale, pour la hausse des salaires, pour les services publics. Nous irons, comme d'habitude, en soutien derrière les syndicats. Mais je ne crois pas que la manifestation soit le mode d'expression des partis politiques. Là, on a une divergence avec certaines manières de s'exprimer à gauche également. Donc moi, je n'irai pas dans la rue demain, et les militants du Parti Socialiste des Côtes d'Armor non plus.
On a entendu Mathilde Panot demander la destitution du président de la République. Le texte a été déposé, je crois. Là aussi, il y a une divergence entre une partie de la gauche et le Parti Socialiste.
Là aussi, il y a une divergence. Nous ne voterons pas non plus de destitution du président de la République. Pour une raison simple, c'est que cette disposition dans la Constitution a été inscrite pour des cas de force majeure, de dérive illibérable, dérive autocratique éventuelle d'un président de la République, de perte de ses moyens éventuellement cognitifs, de ces sujets de cas extrêmement mineurs et extrêmement particuliers. Là, on a une forme de malversation du résultat de l'élection, de manipulation du résultat de l'élection, mais c'est au sein du Parlement et dans les instances politiques, dans les institutions, que la chose doit se jouer. On ne joue pas avec les destitutions du président de la République, on ne joue pas avec les institutions. Ce n'est pas pour protéger Emmanuel Macron que je dis cela, c'est les institutions. On ne peut pas jouer avec les institutions et essayer de les rendre malléables. Il faut que des choses restent fixes dans le fonctionnement démocratique. C'est le sens des institutions et de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas, nous, de destitution du président de la République, mais nous combattrons pied à pied ce gouvernement. Nous essaierons de le faire tomber pour imposer au président de la République l'idée qu'il doit nommer une première ministre issue du nouveau Front Populaire. Et je le répète, en capacité, nous sommes bien lucides là-dessus, de faire des compromis ensuite avec les autres. Vous savez, les compromis, c'est ce que la gauche fait aussi dans les exécutifs qu'elle dirige. Et il ne faut pas croire que nous étions fermés à toute idée de compromis. Je vous l'ai dit, pendant l'été, les dialogues ont été intenses et de nombreux députés de groupes centristes ou de droite étaient prêts à nous suivre sur certains textes.
On peut imaginer un gouvernement technique. Alors, on va connaître le gouvernement dans les heures, dans les jours qui viennent. Le Premier ministre Michel Barnier consulte, lui aussi. On espère que ça ira un petit peu plus vite que la nomination du dit Premier ministre. Un gouvernement qui peut s'avérer technique, c'est-à-dire on peut imaginer que ce gouvernement nous emmène jusqu'au mois de juin prochain où pourrait intervenir, en tout cas les observateurs le disent, une nouvelle dissolution. Est-ce que ça aussi, c'est bon pour la démocratie ou est-ce qu'on va être dans une forme de saturation pour les Français ?
Je ne suis pas un adepte des gouvernements techniques, pour vous le dire très sincèrement. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'on voyait bien pendant l'été, le Rassemblement national n'attendait que cela, d'un gouvernement technique qui expédie les affaires courantes, permettant à Marine Le Pen, qui est actuellement en procès, de se faire discrète pendant les quelques mois de son procès, pour ensuite revenir le cas échéant au moment d'une dissolution en disant qu'il serait finalement la seule alternative. Mais la raison la plus importante, c'est que je crois que dans ces moments, nous avons besoin de politique et nous avons besoin de réinstaurer le clivage gauche-droite. Emmanuel Macron s'est fait élire en disant que ce clivage était passé et finalement qu'on pouvait rassembler quelque part une forme de somme des bonnes volontés, que l'on soit plus ou moins de gauche ou plus ou moins de droite, puisque de toute façon, il n'y aurait économiquement qu'un chemin possible, celui de la rationalité économique, nous emmenant vers le programme qu'il a fait, programme ultra-libéral, extrêmement violent à l'égard des travailleurs, des travailleuses, des gens mal rémunérés, à l'égard des travailleurs seniors, avec la réforme des retraites, à l'égard des habitants de la ruralité, qui voient les services publics disparaître. Hein, lorsque le libéralisme augmente, les services publics ruraux sont les premiers à disparaître. Le gouvernement technique... pour moi, engendre et maintient cette fable qu'il n'y aurait qu'un chemin possible. Moi, je ne le crois pas. Dans une démocratie, il y a plusieurs chemins possibles et le vote permet de les déterminer. Moi, je défends la ligne politique du Parti Socialiste et du Nouveau Front Populaire et je suis plus à l'aise. Je pense qu'il est plus sain, dans toutes les grandes démocraties, d'avoir des clivages politiques gauche-droite. Et ce clivage politique idéologique au moment des élections ne veut pas dire qu'on ne sait pas travailler ensemble. En réalité, avant Emmanuel Macron déjà, les députés de gauche et de droite travaillaient ensemble au quotidien. Les rapports sont co-dirigés, ils sont rendus à chaque fois par un député de la majorité et un député de l'opposition. Et dans les collectivités, n'en parlons pas, évidemment, le travail se fait de manière également transpartisane. Donc je crois qu'il faut remettre de la politique, justement, là où Emmanuel Macron a essayé de l'effacer pour tout concentrer à l'Élysée et nommer des ministres qui, en vérité, étaient des exécutants de sa simple volonté jupitérienne. Il faut remettre du clivage gauche-droite. Peut-être que c'est déjà le signe de cela, la nomination de Michel Barnier. Le problème, c'est que le groupe qu'il représente pèse 47 députés à l'Assemblée nationale, quand le Nouveau Front Populaire en pèse 180.
Donc ça risque d'être assez difficile pour faire passer certains textes, d'ailleurs.
Il faut déjà voir s'il obtient la confiance du Parlement. Nous verrons ça dans les jours qui viennent.
Voilà, avec le discours de politique générale.
Le discours de politique générale la semaine prochaine. Mais effectivement, il va falloir aller vite parce qu'il y a quelques sujets quand même qui intéressent les Françaises. Les Français, en cette rentrée, il va y avoir besoin d'un budget. Il y a la question, donc, je le disais, de la réforme des retraites sur laquelle nous allons essayer de revenir. Il y a la question des salaires sur laquelle il va falloir agir rapidement. Et la crise du logement aussi qui continue de s'aggraver. 9 millions de personnes sont mal logées en France. Il va falloir agir très vite sur ces sujets principaux.
Alors, on a vu aussi sortir du bois Édouard Philippe, qui, avec beaucoup d'avance, a fait son annonce en disant, voilà, je serai, c'était chez nos confrères du Point, dans leur colonne, je serai en tout cas candidat pour l'élection présidentielle en 2027. Est-ce que c'est prématuré dans la période que l'on traverse ?
Ce qui dit beaucoup, en fait, de cette déclaration de candidature, c'est que justement, Édouard Philippe ne dit pas qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. Il dit qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Et en fait, ça dit beaucoup du crédit politique du président de la République. Même son ancien Premier ministre le croit désormais dans l'impossibilité d'aller au bout de son mandat présidentiel. C'est ça la réalité. C'est que si Édouard Philippe se déclare si tôt, c'est parce qu'il voit un affaiblissement tel d'Emmanuel Macron, qui s'est tellement isolé, qui est tellement voulu décider seul depuis 7 ans qu'aujourd'hui plus personne ne le suit. Si ce n'est Alexis Kohler, plus personne ne le suit. Et donc même Édouard Philippe, qui est un fin connaisseur des institutions, qui a été Premier ministre de la France pendant 3 ans, pense qu'il y aura une élection présidentielle avant 2027. Moi, je n'ai pas à partager cette analyse et je laisse Édouard Philippe être le candidat de la droite s'il le souhaite. Je pense qu'il aura des concurrents dans son propre camp, donc on verra bien à ce moment-là.
Alors, il y a un fait certain, c'est que les Français, et vous le disiez à l'instant, Antoine Ravard, les Français sont préoccupés. Alors, si on réintroduit un peu de politique, il faut aussi réintroduire un peu de social. On voit que les Français ont du mal à boucler leur fin de mois, l'inflation est toujours là, ils ont du mal à payer leur électricité. Voilà, il y a quand même une forme de bombe sociale qui ne demande qu'à exploser. Est-ce qu'il va y avoir urgence là à aller vers une forme d'état généraux de la chose sociale en France? Est-ce qu'il va falloir pousser le futur gouvernement à le faire?
L'urgence, elle est là depuis longtemps. Ça, c'est une certitude. Ça fait des mois, des années, elle s'est amplifiée en raison de critères exogènes. La guerre en Ukraine, évidemment. Le Covid, déjà, avait entraîné aussi une forme d'inflation rampante qui s'est accrue. Mais aussi de critères endogène. La politique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans a fait exploser ces besoins sociaux d'une partie des Françaises et des Français. Je pense notamment à tous les travailleuses et travailleurs, je l'ai dit, aux personnes âgées qui voient leur retraite, qui doivent partir plus tard à la retraite et qui voient en plus leur retraite diminuer en raison de l'inflation. Je pense aux travailleurs mal rémunérés, travailleurs qui touche le SMIC. Il y a quelques années, le SMIC était 20% au-dessus du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est à peine 10% au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, il y a urgence et plusieurs urgences. D'une part, il faut revaloriser les salaires. C'est le nerf de la guerre. Il faut revaloriser les salaires pour permettre aux gens qui travaillent de bien vivre de leur travail. Le Premier ministre a un pouvoir, c'est celui de revaloriser le SMIC. Ça se fait par décret du Premier ministre qui fixe le montant du SMIC. Nous nous demandons, c'était dans notre programme, dès le jour 1, il faut revaloriser le SMIC. Et ensuite, il faut lancer une conférence salariale avec les partenaires sociaux pour les autres salaires qui, eux, sont fixés par des conventions collectives. Il faut donc que les partenaires sociaux, à l'appel du Premier ministre, aient la main, ce qui n'est pas le cas depuis 7 ans, puisqu'ils ont été méprisés et écrasés par Emmanuel Macron et ses différents premiers ministres, ministre du Travail, de l'Emploi, etc., prennent la main. Donc, il y a cette partie travail, rémunération du travail, et la deuxième partie fondamentale, c'est celle d'une réforme fiscale pour qu'il y ait de la justice fiscale dans ce pays, d'abord. C'est-à-dire que les grandes entreprises payent un taux d'impôt équivalent à celui des entreprises de notre territoire, par exemple, ces petites entreprises, les artisans, les TPE, les PME, qui payent bien plus d'impôts, en réalité, je le redis, que les grandes multinationales. Et il faut de la justice fiscale également sur les travailleurs, en rendant l'impôt plus progressif, et que cet impôt lui permette de financer des services publics. Je le disais, il y a l'hôpital qui est en déshérence partout en France. Il y a des situations extrêmement difficiles dans l'école. On manque de professeurs, on ferme des établissements, on ferme de plus en plus de classes, on manque de commissariats. Ici, je rappelle qu'on manque depuis des années d'un poste de gendarme à la gendarmerie de Pleuc, qui n'a jamais été octroyé malgré les demandes répétées des élus locaux depuis bientôt 10 ans. Et pour tout ça, il faut prélever l'impôt. La réalité, c'est que les 7 ans de bilan d'Emmanuel Macron ont permis aux grandes fortunes de ce pays et aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt. Quand vous et moi, nous n'avons pas la capacité d'échapper à l'impôt et pas non plus les travailleurs des usines de notre territoire.
Alors, dans un contexte budgétaire aussi compliqué, on a entendu l'ex-ministre des Finances, Bruno Le Maire, s'exprimer en début de semaine suite au rapport qui a été remis aux parlementaires en disant, voilà, la dette va être encore un peu plus importante. Alors, plus 16 milliards d'euros, c'est très important, effectivement, qui s'ajoute déjà à la dette en cours. Et c'est la faute aux collectivités locales, hein, c'est ce qu'on a entendu. Ce qui a fait d'ailleurs réagir les dites collectivités.
De qui se moque ce monsieur Le Maire? Excusez-moi, mais ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie et des finances. 7 ans que son boulot, c'est de s'occuper du budget de l'État. Le déficit augmente. Et il désigne des coupables à l'emporte-pièce. Et à chaque budget, c'est jamais les mêmes. Tous les ans, il en désigne. C'est un peu de la faute d'un tel, c'est un peu de la faute des collectivités. La réalité, elle est très simple. D'une part, sur les collectivités, on connaît ici beaucoup de maires, de présidents de département, les présidents de région. Gauche ou droite, d'ailleurs, vous voyez, il faut parfois savoir casser les clivages, ont une gestion des finances publiques généralement bien plus exemplaire. Pour une raison simple, c'est que les collectivités locales ont déjà l'obligation de présenter un budget à l'équilibre. Ce qui n'est pas le cas de l'État. Donc ça, c'est la première raison. Il faut absolument redire que ce déficit excessif de la France, qui peut être inquiétant à certains égards, n'est absolument pas de la responsabilité des collectivités locales. Bien au contraire. Parallèlement à ça, je rappelle qu'elles assument aussi de plus en plus de charges, notamment les collectivités socialistes, puisqu'à mesure que l'État se désengage d'un certain nombre de services publics, lorsque vous avez un maire de gauche, un président de conseil départemental de gauche ou un président de conseil régional de gauche, vous avez la chance que celui-ci ou celle-ci prenne dans ses responsabilités une partie des services publics sur lesquels l'État se désengage. C'est un choix politique qui peut créer à court terme du déficit, mais c'est un choix politique que nous assumons. Et la deuxième réalité, c'est que dans un budget, il y a des recettes et des dépenses. Les dépenses, elles sont assez stables dans le temps ces dernières années. C'est les recettes qui diminuent depuis 7 ans. Parce que quand vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, quand vous ne luttez pas contre la fraude fiscale, quand chaque année vous abandonnez 60 milliards d'impôts sur les sociétés, et je le redis, pas à nos boulangers ou à nos TPE, leur impôt il est stable dans le temps, mais que vous abandonnez d'année en année toujours plus d'impôts sur les entreprises cotées en bourse française. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous créez un problème de recettes. Et puis une fois que vous avez créé ce problème de recettes, donc vous rentrez moins d'argent dans les caisses, qu'est-ce que vous faites? Vous vous en servez pour dire que du coup, il faut réduire les dépenses. Et ça, c'est le fonctionnement de l'économie libérale d'Emmanuel Macron. D'abord, vous baissez les recettes, puis ensuite, vous constatez un déficit. Donc vous dites, ah ben, il va falloir fermer des services publics ou il va falloir diminuer les pensions de retraite ou partir à la retraite plus tard de manière à dépenser moins. La solution, elle est très simple en réalité. Il faut une réforme fiscale pour aller chercher de l'argent. Là où il se trouve, et je rappelle que le Nouveau Front Populaire proposait une réforme fiscale qui aurait permis, d'une part, d'augmenter les recettes fiscales de plusieurs dizaines de milliards par an, tout en permettant à 80% des travailleurs, en réalité, ceux qui gagnent moins de 4000 euros par mois, de payer moins d'impôts. Si on fait les réformes fiscales que nous souhaitons, on ira tellement chercher d'argent dans la fraude fiscale et dans les plus-values boursières, notamment, que les travailleuses, les travailleurs verront leurs impôts diminuer. Ça, c'est le programme du Nouveau Front Populaire. C'est celui que nous mettrons en place si le gouvernement de Michel Barnier ne peut durer.
Alors, il y a cette attente sociale, il y a cette proposition fiscale. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, là aussi, je ne vais pas dire renverser la table, c'est un terme très galvaudé, mais vraiment changer de paradigme en ce qui concerne les finances publiques?
Je crois qu'il faut effectivement changer de paradigme. J'entendais encore, il y a quelques jours, Valérie Pécresse nous dire « on n'a plus un rond ». Mais c'est l'ancienne de la droite depuis des décennies. François Fillon, Premier ministre, il y a plus de 15 ans, nous disait que l'État était en faillite. On voit bien que depuis,
finalement, rien
n'a
changé.
Les États-Unis ont un déficit cette année de 7%. Et c'est dû à l'excellente politique de Joe Biden qui a décidé après le Covid de faire un plan de relance massif qui, en plus du plan de relance, est un plan de virage à 90 degrés pour créer une économie beaucoup plus écologique et développer ces territoires les plus ruraux via un plan d'investissement dans des infrastructures. Alors, on ne peut pas se comparer en tout point, les États-Unis sont différentes, on parle de la taille du territoire qu'ils ont à couvrir. Malgré tout, il faut changer avec cette dictature quelque part de la dette. La France n'est pas le pays le plus endetté du monde, le Japon aussi a une dette largement supérieure, par exemple, à la France et n'est pas empêché de réussite économique pour cela. Donc il faut d'une part mettre ce sujet, je pense, derrière, au second rang des priorités, parce que gérer les finances publiques, c'est pas un objectif, vous savez, ça ne peut pas être un objectif politique, c'est une contrainte. Les finances publiques, oui, c'est une contrainte. En fonction des finances publiques, on peut développer telle ou telle politique sociale. Mais ça ne peut pas être un objectif en soi. Moi, je ne vote pas pour un gestionnaire à la tête de l'État. C'est ce que veut faire Emmanuel Macron, sans doute Michel Barnier, qui lui aussi semble obsédé par cela. Mais nous avons les réussites. Je rappelle le programme du Nouveau Front Populaire avec la réforme fiscale que je viens de parler et les réformes sociales qui nous auraient malgré tout coûté de l'argent, étaient validées par Esther Duflo, prix Nobel d'économie il y a 3 ans, par Michael Zemmour, grand économiste d'aujourd'hui, par Thomas Piketty, par des gens extrêmement respectables, professeurs dans les plus grandes universités du monde, dont certains ont conseillé Joe Biden. Je pense qu'on peut leur faire confiance.
Un dernier mot, Antoine Ravard. Pourquoi la gauche fait peur? Voilà, je vous provoque un peu.
Je ne crois pas que la gauche fasse peur, je crois que Jean-Luc Mélenchon a fait peur. Et je l'ai vécu dans l'élection législative que j'ai menée dans la 3e circonscription des Côtes d'Armor. Jean-Luc Mélenchon et quelques-uns de ses amis, mais pas leur programme, leur attitude politique, leur rapport au fonctionnement démocratique, leurs outrances, leurs insultes, leurs violences, leur volonté d'ancrer le pays dans une forme de communautarisme que je ne partage absolument pas, puisque la gauche doit d'abord être universaliste et penser la communauté nationale comme un tout et non pas comme une somme de petites communautés divisées. Cela a fait très peur et je l'ai mesuré en remenant cette campagne législative au printemps où on m'a énormément parlé, énormément dit que Jean-Luc Mélenchon faisait peur. par ailleurs, d'autant plus dans un territoire rural comme le nôtre, parce que au-delà de faire peur, je crois que Jean-Luc Mélenchon a une deuxième tare dans son discours, c'est qu'il ne se préoccupe jamais des territoires ruraux. Et ça va justement dans sa logique de communautariser la France, où il la segmente. Il vise à la fois un électorat rural bourgeois de gauche, urbain bourgeois de gauche, et urbain, périurbain, plus populaire, mais dans les banlieues. Mais il oublie complètement de parler à cet électorat qui historiquement votait à gauche, en Bretagne par exemple, comme dans d'autres régions, dans le sud-ouest, on peut y penser, dans le Nord-Pas-de-Calais, de cet électorat de gauche, mais qui vit en territoire rural et qui n'a pas les mêmes préoccupations. Mais moi, mon ambition, c'est de continuer le combat et on y retournera avec le Parti Socialiste
Antoine...
pour relever la gauche.
Antoine Ravard, voilà, je voulais aller jusqu'au bout. Antoine Ravard, premier secrétaire du Parti Socialiste des Côtes d'Armor, était avec nous ce matin en direct dans la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci, bonne journée à tous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.